Mes chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche parce que, comme vous le savez, la Troisième Guerre mondiale nous pend au nez. Le coronavirus a foutu le camp comme par enchantement. Mais bon, si vous êtes là, avant toute chose, la famille, lâchez-vous, laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur. Sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec un auteur de bande dessinée qui remporte le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec à 3 reprises. En 2009, il est l'artiste en résidence qui inaugure le studio du Calque à Londres et devient du même coup le premier artiste en bande dessinée en résidence dans l'histoire de l'organisme. Il remporte plusieurs prix pour divers albums et effectue en 2018 une autre résidence en Bavière. Brillant avec son crayon, je vous laisse découvrir qui est Christian Quenel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour, Monsieur Quenel, comment allez-vous?
Ça va très bien, David, et toi?
Moi, ça va très bien. En fait, on vient d'en parler, justement. Moi, j'ai préparé cette entrevue en vous vouvoyant. Donc, c'est pas parce qu'il y a quoi que ce soit, c'est juste parce que, d'après ce que j'ai préparé, c'était fait comme ça. Vous allez me tutoyer, moi, je vais vous vouvoyer, mais il n'y a pas de stress.
C'est pas pour mettre de la distance, là, hein, quand même.
Pas du tout. Christian, faites-nous un survol de votre vie. Dites-nous un petit peu qui est Christian Quenel.
Oh mon Dieu, vaste question. Sauf que je pourrais te dire que ça fait, cette année, ça fait 30 ans, ça marque les 30 ans de carrière en bande dessinée. J'étais un auteur de bande dessinée depuis, j'avais 20 ans à l'époque. J'ai commencé à travailler sur des projets c'était plus historique, mais vraiment historique. J'utilise toujours l'histoire aujourd'hui, mais je tends à la distorsionner, en fait. Je tends à jouer beaucoup avec l'histoire. Au début, je travaillais pour un public, je m'adressais à un public qui était plus adolescent. Maintenant, d'accord, je travaille pour un public qui est plus adulte. Puis j'ai des thématiques, là, mes deux derniers albums, il y en a une, c'était sur l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec, qui s'appelle « Vous avez détruit la beauté du monde ». Puis le dernier album, c'est un ouvrage, c'est un essai, en fait, en bande dessinée, qui est Mégantique, qui est une enquête sur Mégantique. Ça s'appelle Mégantique, un train dans la nuit. C'est un essai sur la catastrophe de Mégantique qui s'est passée, là. Ça va faire bientôt 9 ans que ça s'est passé.
Effectivement. Je me rappelle, c'était une catastrophe extraordinaire. Incroyable, quoi.
Oui. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'était comme le... Je pense que c'était 1/20 d'une bombe atomique, l'explosion. C'est...
Quand même, hein?
Oui, c'est fou. Puis, j'ai travaillé là-dessus pendant un an. Puis ça m'a vraiment fait voir l'aspect humain. Puis maintenant, mon travail tend beaucoup vers ça, le côté humain. Le drame, oui, parce que je ne suis pas... dans la vie, je ne suis pas très dramatique, là, mais je veux dire, dans mon travail, c'est beaucoup dramatique ce que je fais. Je fais pas beaucoup de comédie.
Ouais. Ah, OK. Et d'où est venu votre amour pour la bande dessinée?
Ça a toujours été présent. Ça a toujours été là. Je te dirais que du plus loin que je me souvienne, c'était les dessins animés qui m'ont emmené vers la bande dessinée. Le premier livre que j'ai lu, c'était une bande dessinée.
D'accord.
Puis j'ai toujours voulu en faire. J'ai jamais voulu être illustrateur. Quand on me dit « t'es illustrateur », ça marche pas avec moi. J'accepte pas beaucoup ce terme-là, parce que faire de la bande dessinée, c'est avant tout écrire de la bande dessinée, c'est être auteur. Je préfère le terme « auteur de bande dessinée ». Il y en a qui disent « BDiste », mais « BDiste », ça dit « bon, c'est BD, fais de la BD ». Sauf que pour moi, c'est beaucoup... liée à la narration. D'ailleurs, au début de Mégantic et de Vous avez détruit la beauté du monde, mes deux derniers albums, c'est pas écrit illustration Christian Quellel, c'est écrit narration en image.
Vous avez remporté le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec à 3 reprises. À quoi consiste ce prix, en fait?
En fait, c'est un prix qui est remis, justement, comme tu le disais, par le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est un prix qui... je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions, mais c'était spécifiquement l'Outaouais. En 2008, c'était pour l'ensemble du travail d'un artiste. C'était ça qui était le titre du prix. Donc, je l'ai remporté à ce moment-là, pas pour une œuvre en particulier. Mais c'est un jury aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jury externe à l'Outaouais. Il y a peut-être un représentant de l'Outaouais, mais le reste du jury est constitué à l'extérieur. Ce qui évite toute l'historique, si on veut. On peut avoir des... tu sais, les milieux artistiques, il y a des petites jalousies.
Effectivement, des amis, des gens qu'on connaît, des gens qu'on n'aime pas ou des gens qu'on aime.
Des gens qu'on évite.
Voilà.
Mais en même temps, c'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est un jury externe, donc qui ne nous connaît pas nécessairement, puis qui font vraiment un travail sur l'œuvre comme telle. Donc maintenant, le prix du calque, c'est œuvre de l'année, en fait, du calque. Puis, je l'ai remporté, je pense que c'était en 2014, pour Ludwig, qui est une bande dessinée symphonique que j'ai fait avec l'Orchestre symphonique de Gatineau.
D'accord.
Puis, un autre projet après que j'ai fait avec l'Orchestre symphonique, c'est Félix Hotler, L'Alouette en liberté, qui est sorti aux Éditions de l'Homme. Puis, c'est pour ces deux projets-là là, que j'ai eu la chance de remporter le prix du CAC. Donc, très, très chanceux. Le CAC, c'est mon meilleur ami, je le dis toujours.
Quand vous avez un peu besoin d'argent, vous les contactez, vous envoyez un chèque, c'est ça?
C'est pas comme ça, je le vois. Quand je rêve, puis je mets sur papier mon rêve, puis que j'ai besoin de le réaliser, le calque est toujours là pour être mon partenaire, ma compagnie là-dedans. C'est vraiment, c'est incroyable le partenariat qu'on a, en fait, mais qu'ils ont avec les artistes, là, pas juste avec moi. Mais c'est parce que, vois-tu, En 2009, moi, je rêvais justement de... ça faisait longtemps, je me disais, justement, un an après avoir remporté le prix du calque, je me suis dit, hey, ce serait bien de faire une résidence d'artiste quelque part. Puis je me suis dit, je vais faire un essai. Je vais essayer au calque, je vais regarder les résidences qui s'en viennent, puis je vais essayer au calque juste pour me pratiquer. Puis quand ils vont me refuser, je vais les appeler pour leur dire, bon, qu'est-ce qui marchait pas? Qu'est-ce qui serait bon à faire? Finalement, je dépose la demande. J'en ai même pas parlé à ma conjointe de l'époque. C'était juste pour me pratiquer. Je reçois un coup de téléphone 3 mois après. Bonjour, M. Quesnel. C'est une telle du Conseil des arts et des lettres du Québec. Est-ce que vous êtes toujours prêt à partir pour Londres? Oh, OK.
Oh, wow.
C'est la première fois, là. C'est un trou d'un coup, comme on dit. Là. C'était exactement ça. Puis c'était 6 mois quand même à Londres. Puis c'était la première fois que le Conseil des arts ouvrait cette résidence-là à Londres. Puis c'était la première fois dans l'histoire du calque qu'il y avait un auteur de bande dessinée qui était sélectionné pour une résidence. Donc, j'étais vraiment fier. Non?
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
De ne pas avoir de boss.
La quête de tout être humain, c'est ça.
C'est sûr qu'il y a des obligations, mais il y a une certaine liberté aussi. C'est juste qu'il faut être prêt à assumer. Je pense que c'est ça, c'est être prêt à assumer l'incertitude. Mais il y a des façons. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu réconfortant, la maison. J'ai une routine. Donc, je me suis arrimé vraiment une routine quotidienne pour pallier à ce manque de sécurité-là. C'est sûr qu'au début, c'était plus insécurisant. Mmh. Mais plus on vieillit, plus on a de charge aussi.
Mmh.
Donc, je suis tout le temps un peu stressé par rapport à l'incertitude, mais j'y arrive. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus aussi, c'est le pouvoir et la capacité de se renouveler.
D'accord.
Constamment, de se réinventer. Parce que En bande dessinée, plus pour jeunesse, puis je la dénigre pas du tout, c'est pas ça, au contraire, j'admire beaucoup ceux qui travaillent dans la bande dessinée jeunesse, c'est souvent des séries.
Mm-hmm.
Puis ils sont pris avec le même personnage, des fois à 2, 3, 4, 10, 20 albums, Y a pas, c'est difficile de se renouveler dans ce temps-là. Hergé, dans les années 60, par exemple, Hergé a voulu tout mettre de côté. Il travaillait moins en bande dessinée, puis il s'est mis à faire de la peinture abstraite, là, contemporaine. Puis ça l'a... comment je peux dire, ça n'a pas très bien marché à l'époque pour lui, mais il y avait ce besoin-là de s'en sortir. Je parlais avec Marc de la Fontaine, un des co-auteurs des Nombris, puis il me disait, lui, il n'en pouvait plus. Là, c'était tout le temps une pression de son éditeur pour ressortir un nouvel album. Mais je dis, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Là, c'est comme presser le citron. Donc, c'était un peu... ces créateurs-là deviennent un peu à la remorque. Souvent, c'est ça qu'ils disent, à la remorque de leur propre personnage. Puis moi, vu que c'est des one-shots à chaque fois, ben je réinvente à chaque fois. Puis ça, cette liberté-là, pour moi, c'est plus dur comme, comme trajectoire. Mais après 30 ans, je pense que j'y suis arrivé. Puis j'ai réussi quand même à faire... les gens suivent mon travail, mais c'est des sujets complètement différents de fois en fois.
Votre carrière semble être à cheval entre le Québec et l'Europe. Quelle est la différence entre le monde du BD au Québec ou au Canada et en Europe?
En Europe, comment je pourrais dire, c'est une industrie. Ils sont beaucoup, ils sont très nombreux, ils sont en compétition, les uns contre les autres ou avec les autres, je ne sais pas comment le dire. Ils ont, y a, en 1985, à peu près, il y avait à peu près 700 nouveautés franco-belges qui sortaient par année. L'année passée, je pense qu'ils ont dépassé le 5000 par année. Ça montre une surproduction. Ça démontre aussi qu'il y a de moins en moins... La tarte est de plus en plus fractionnée entre les auteurs. Puis ça crée cette atmosphère-là un peu... comment je peux dire? De compétition. Tandis qu'au Québec, il ne faut pas dire qu'on est meilleur qu'ailleurs. Là. C'est pas ça que je veux dire. sauf qu'il y a une belle solidarité. Il y a une belle entraide. Je dis souvent, il y a des auteurs de BD au Québec qui m'ont dit « Ben non, moi je me sens pas de même, mais ça fait rien. La majorité pense la même chose que moi. » C'est qu'on est comme une grande famille. Il y a de la parenté lointaine, il y a de la parenté qu'on ne veut pas voir, mais n'empêche qu'il y a une certaine solidarité, il y a une fierté. Quand il y a un réussi, ça ne nous enlève rien. Au contraire, ça rehausse le niveau. Il faut imaginer le monde, je parlais de 1985 justement, le monde de la bande dessinée en 85 au Québec, il n'y avait pas d'industrie, c'était inexistant, c'était des petits projets, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Il y avait la revue Crow au Québec qui fonctionnait, qui était une revue d'humour, il y avait de la bande dessinée dedans. Mais il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis 2000, 99-2000, il y a des structures éditoriales, il y a eu Mécanique Générale, il y a eu la Pastèque. Il y a eu Pau-Pau, les éditions Pau-Pau. Puis là, moi, je suis parti à une maison d'édition qui fonctionne super bien, qui est modèle graphique aussi à Québec. C'est toutes des identités éditoriales qui sont singulières, mais qui se complètent les unes les autres. Donc, nous, modèle graphique, on n'a pas de misère à dire à un auteur qui nous soumet un manuscrit, ben nous, ça ne correspond pas à ce qu'on fait, mais peut-être que Pau-Pau, ce serait davantage leur truc. Donc, c'est ça, les projets peuvent être bons, mais ils sont pas obligés on n'est pas obligé de prendre un projet bon s'il ne correspond pas esthétiquement et narrativement à ce qu'on voit. Donc, c'est ça, il y a une entraide pas juste au niveau des auteurs, mais il y a aussi une entraide au niveau des éditeurs. Puis les diffuseurs trippent beaucoup là-dessus. Puis autre chose aussi très importante au Québec, puis moi ça m'est arrivé tout le temps en Outaouais particulièrement, il y a les médias. Les médias s'intéressent beaucoup à la bande dessinée, puis ils en parlent, puis ils aiment la bande dessinée. En fait, c'est un médium qui parle beaucoup, médiatiquement parlant. Je pense à Mégantic, Train dans la nuit, notre revue de presse. Là, j'en revenais pas, j'ai jamais connu quelque chose comme ça, parce qu'on a un attaché de presse qu'on travaille avec. Tout ça. Puis elle nous est arrivée avec une revue de presse de 160 pages, juste pour le Québec, ça inclut pas l'Europe. Donc, on se dit, 160 médias en ont parlé au Québec, c'est quand même... Wow!
C'est bien.
Donc, il y a un engouement, en fait, au Québec. Il y a quelque chose. Je sais qu'en Europe, c'est très dur de faire parler d'un album et tout ça. Mais on a quand même réussi à faire parler dans le Figaro de Mégantic. Donc, c'est ça. Je suis un peu mitigé par rapport à l'Europe parce que l'Europe, on dirait, ça devient un peu... Puis là, je veux pas me faire acquérir en Europe, c'est pas ça, mais il y a un côté un peu sclérosé, ça bouge moins vite. C'est des grosses machines qui sont plus difficiles à faire bouger. Ouais, ouais.
D'accord. Comment se porte l'industrie du BD, en fait?
En fait, il n'y a jamais eu autant d'albums qui se sont publiés. Il n'y a jamais eu autant de qualité aussi. Il n'y a jamais eu autant de merde qui s'est faite. Il y a quand même une... Avec la quantité vient autant la qualité que le médiocre. Mais je pense que... En fait, s'il y a un secteur culturel qui n'a pas encore été très affecté par la haute technologie, comme la musique... Vous vous êtes fait rentrer dedans, solide. Mais en bande dessinée, les gens ont encore besoin de l'objet livre. Ils ont encore besoin de toucher le papier, d'être en présence d'un livre. Je veux dire, ça change pas. Puis la bande dessinée et le livre, le format du livre ont vraiment été liés. Je te donne un exemple. En bande dessinée, il y a quelque chose qui existe qui est le surgissement. Le surgissement, c'est simplement, quand on lit, mettons, on tourne les pages d'un roman, c'est du texte, du temps. Mais quand on tourne les pages d'une bande dessinée, il y a des images qui disparaissent pour laisser place à une nouvelle mise en page, à des nouvelles images. C'est ça le surgissement. Donc ça, c'est aussi juste le fait de tourner la page, c'est un levier pour la narration, parce qu'on peut surprendre un lecteur comme ça. Donc il y a des choses qui existent au niveau du iPad, le scrolling, tout ça, mais il y a quelque chose, je sais pas, il y a un rapport intime qui fait en sorte que la bande dessinée persiste, puis encore une fois, il y en a pas moins de bandes dessinées qui se font, qui se publient papier. Ça l'arrête pas, en fait, là. Ça augmente. Je sais pas jusqu'où qu'on va pouvoir aller comme ça, parce que juste les libraires. En France, les libraires peuvent pas tenir un inventaire comme ça. Et pour un livre qui sort de librairie, il y en a 40 qui vont rentrer.
D'accord.
Donc, ouais, physiquement, un lecteur aujourd'hui peut plus suivre tout ce qui se fait. C'est impossible.
Qu'est-ce que la pandémie vous a appris?
La pandémie m'a appris à être en capacité d'habiter son imaginaire encore davantage. À être tourné vraiment vers la création. Puis en même temps de continuer à tisser des liens extérieurs. C'est pas juste d'être la caméra, le petit nombril, là. C'est pas ça. C'est simplement d'aller puiser en soi des choses qui peuvent donner espoir aux gens. Ça, j'ai fait ça en début de la pandémie. J'ai fait des illustrations en lien avec l'actualité. Puis je mentionnais ça. Puis il y avait il y avait beaucoup d'images là. Onirique. Donc, c'est vraiment le côté onirique de mon travail qui a pris le dessus. Parce qu'il y avait comme un corps, mais la tête, c'était un oiseau. Donc, ça démontrait comment toute l'imagination pouvait s'envoler puis aller au-delà de qu'est-ce qu'on vivait. C'est ça, c'était de donner de l'espoir aux gens. Puis en même temps, ça m'a confirmé justement les ventes de bandes dessinées au Québec. Il y avait déjà été en pleine progression. C'était un des secteurs du livre qui fonctionnait le mieux. Mais avec la pandémie, ça l'a. C'était exponentiel. Je donne un exemple. Là. Récemment, on a sorti René Lévesque, quelque chose comme un grand homme aux éditions Moelle Graphique. J'ai participé, j'ai un chapitre parmi 14, mais c'est Marc Tessier qui a scénarisé tout ça. Puis en une journée, il s'est vendu à 6000 copies. J'ai jamais vu ça. Puis Mégantic auparavant, à partir de août 2021. Il y avait eu 5000 copies au Québec, puis 3000 en France qui ont été imprimées, puis ils ont été obligés de renvoyer assez rapidement une réimpression, donc on est à 12 000 de tirage maintenant. Là, on pensait pas, déjà, là, quand je parle de 1985, on parlait de 350-500 copies, là, c'est tout.
Wow.
Ça l'a complètement changé, puis la pandémie a beaucoup aidé au secteur du livre. Si les arts vivants, ça a été une valeur refuge, en fait, culturel. Vu que les arts vivants ils ont été obligés de se réinventer, de faire autre chose, les salles étaient fermées. Les gens sont beaucoup tournés vers la lecture. Puis la bande dessinée particulièrement en a profité.
que pensez-vous des mangas?
Des mangas, j'ai, écoute, c'est drôle que tu me poses la question. Ma fille, c'est une fanatique de manga, je jure que par ça. Sauf que quand j'étais jeune, quand tu me posais la question tantôt par rapport à comment j'ai commencé pour depuis quand je veux faire de la bande dessinée, en fait, c'est un produit dérivé de manga qui jouait à la télévision quand j'avais 6-7 ans. Il y a eu, en premier lieu, il y a eu Goldorak qui est sorti.
Goldorak Go.
Ouais, exactement. Figure au point. On va toutes les faire comme
figure au point. Arturo H.
Métamorphose. Mais bref, on a. J'ai beaucoup trippé là-dessus quand j'étais jeune. Puis il y a eu Albator aussi, Capitaine Flamme. Bon, Ulysse 31, tout ça. Donc ça m'a mis dans un univers un peu manga, justement. Au début, c'est que ça qui m'allumait. Après, ça a évolué, ça a pris d'autres. J'ai découvert des auteurs italiens, français, Druillet, pour pas les nommer, Druillet, Bilal, il y a eu aussi Toppi, c'est un italien, Hugo Pratt, naturellement, avec Corto Maltese. Donc, j'ai découvert ça plus à l'adolescence, mais l'enfance a été beaucoup habitée par le manga. Mm-hmm. Un peu de super-héros, pas tant que ça, un peu. Mais quand j'ai découvert la BD européenne plus... comment je pourrais dire, non? Plus adulte à l'époque, là, j'ai allumé. Et puis là, ça m'empêche pas d'apprécier des mangas aujourd'hui. Là, j'apprécie beaucoup... Devilman, des choses comme ça, mais c'est encore un peu old school si on veut, mais il y a du beau travail. Puis ma fille, elle m'initie à beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, moi j'enseigne, j'ai une charge de cours à l'Université du Québec en Ottawa, j'enseigne en bande dessinée. Puis mes étudiants et étudiantes, surtout étudiantes, parce qu'elles sont plus nombreuses maintenant en bande dessinée, étudiantes en bande dessinée.
D'accord.
Elles me montrent beaucoup, elles m'apprennent beaucoup au niveau du manga. Ils me font découvrir, ils me tiennent à jour, en fait.
D'accord.
Ouais.
Ah, ben c'est très bien, c'est très bien. Ouais.
Je suis ouvert à tout, moi. En fait, dans tout, il y a du bon puis du moins bon. Donc, c'est dommage d'être fermé à quelque chose. Là. Comme moi, j'écoute du métal, mais je veux dire, ça ne m'empêche pas d'écouter. Si des fois, il peut y avoir des bonnes tunes de rap, je vais en écouter ou quoi que ce soit d'autre, du classique, du jazz.
Ben, il y a toujours, moi je dis toujours qu'il y a ce qu'on appelle le. On a un genre musical qu'on préfère, mais la musique reste la musique. Quand une chanson elle est bonne, elle est bonne. N'importe qui, dans n'importe quelle sphère du monde, va reconnaître que cette chanson, parce que une chanson c'est dans l'imaginaire, c'est quelque chose j'appelle ça de très angélique. Donc quelque part, c'est quand une musique nous percer au plus profond de nous, ben c'est là qu'on reconnaît. Donc ça peut être du rock, ça peut être du n'importe quoi, à partir du moment qu'elle est bonne et qu'elle réussit à toucher le fin fond de notre cerveau, ben c'est ça quoi, la musique. En fait.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, c'est exactement ma façon de voir les choses. Puis c'est valide pour aussi certaines formes, d'autres formes d'art, tu sais,
effectivement.
C'est la même chose.
Maintenant, on va passer à la question.
Question qui tue.
La question qui tue. Da-da-da. Où étiez-vous quand vous avez appris la prise d'otage d'un autocar sur la colline du Parlement à Ottawa en 1989? Et avant que vous répondiez, je vais remettre les choses dans leur contexte. Okay, donc, en avril 1989, un homme avait détourné à Ottawa un autocar qui se dirigeait vers New York avec à son bord 11 passagers.
Il faut dire que ça s'est bien... le dénouement était heureux. Faut dire que ça a duré 8 heures.
D'accord.
J'étais à l'intérieur du Parlement.
D'accord.
J'avais 16 ans.
OK.
J'étais avec mes... j'étais en visite scolaire, en fait. J'étais en visite scolaire, puis on nous a dit, il faut pas vous approcher des fenêtres, tassez-vous. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a dit, tassez-vous par là, il faut vraiment regarder pas par les fenêtres. Puis là, à partir de là, on savait pas qu'est-ce qui se passait. J'ai jamais su ce qui se passait.
D'accord.
Ce qu'ils nous ont fait faire, ils nous ont fait passer par le labyrinthe qui est en dessous du Parlement. Ça, j'ai adoré ça parce que personne ne connaît ça. Il y a une sorte de labyrinthe en dessous du Parlement. Puis on est sorti dans une sortie secrète, en fait, de long de la colline. On appelle ça la colline. Bon, il y a des sorties comme ça en dessous du Parlement. Donc, on est sorti de ce côté-là. Mais on s'est perdu de vue. Fait que moi, j'avais juste 16 ans. Fait que qu'est-ce que tu fais à Ottawa? C'est une ville anglophone. En plus, je parlais presque pas anglais. Non? Moi, je viens de Saint-Pierre-de-Wakefield, qui est à peu près une demi-heure au nord de Gatineau.
D'accord.
C'est Val-des-Monts aujourd'hui qu'on appelle ça Val-des-Monts. Puis j'allais à la polyvalente Les Rabillères, qui est à Gatineau. Je suis vraiment de la région. Mais à Saint-Pierre, chez nous, on n'avait pas appris l'anglais, malgré que ma grand-mère, c'est une McGlashan, c'est Ethel McGlashan, son nom.
D'accord.
J'ai des origines écossaises, mais l'anglais s'est perdu avec ma grand-mère quelque part. Mais bref, cette journée-là, en fait, on s'est retrouvés 3-4 ados au centre Rideau à essayer de trouver un autobus pour retourner à Gatineau parce que là, il n'y avait plus de. Je pense que c'est mes parents qui étaient venus me chercher à Polyvalente, quelque chose comme ça. Mais ça avait été. Je me souviens qu'à 16 ans, on a l'impression d'être éternel, on se fout de tout. Mm-hmm. Puis c'était comme. Je me souviens que c'était un événement heureux, dans le sens. Je sais que c'était dramatique pour les gens qui ont été pris en otage, mais pour nous qui étaient à l'intérieur du Parlement, c'était une visite du Parlement très, très particulière.
Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'on parle de 89, ça a l'air d'être il n'y a pas longtemps, mais en 89, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Hein.
Oui, exactement. Donc, je me souviens d'avoir eu assez de monnaie sur moi pour appeler chez moi. Ouais, dans une cabine téléphonique à ce moment-là. Ça fait drôle à dire, 1989 quand même, c'est... C'est vrai que ça fait loin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de 1989 en cause de ce qui se passe en Ukraine, mais à cause de la chute du mur de Berlin et tout ça. Mm-hmm. Mais ouais, c'est finalement, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps.
Mais qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur? Il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il revendiquait?
En fait, il était d'origine libanaise, puis à l'époque, c'était la guerre au Liban, la guerre civile, puis il voulait attirer davantage l'attention des médias occidentaux sur ce qui se passait dans son pays, la destruction de son pays. J'ai beaucoup pensé à lui, hein, c'est, quand je suis allé, je pense que c'était en 2015, en 2016, je suis allé à Beyrouth, dans le centre du livre de Beyrouth. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup pensé à lui, justement, puis j'imaginais un peu, parce qu'on disait tout le temps que Beyrouth, c'était le Paris, Proche-Orient, tout ça, c'était une super belle ville. Mm-hmm. Là, c'est sûr qu'il était en construction, mais il y avait encore des pans de Beyrouth qui étaient négligés, détruits. Donc, la guerre fait tellement... Mm-hmm. La guerre peut arrêter, là, je pense qu'elle a fini au début des années 90 au Liban, mais en 2016, on voyait encore beaucoup de choses de détruites.
D'accord.
Ça dure tellement longtemps, mais en tout cas, c'est parenthèse. Je suis allé à Beyrouth, puis j'ai pensé à ce monsieur-là.
Et qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on l'avait arrêté? Est-ce qu'il avait fait de la prison? Est-ce que...
Ben, j'imagine qu'il a fait de la prison. Je ne sais pas. Je me suis pas documenté sur le monsieur en question. C'est juste que, quand même, c'est un Libanais québécois parce qu'il disait il lançait des tabarnaks. Il y avait quand même des expressions, là, semble-t-il, là, québécois.
Oui, c'était quelqu'un d'ici qui avait quand même passé beaucoup d'années ici, puis qui a...
Ouais, j'ai l'impression.
Ça pétait un plomb, quoi. Ouais. D'accord.
Ben, pétait un plomb,
Ça pétait un plomb dans... Ça dépend dans quel... Enfin, sous quel angle on se met.
Oui, parce que, écoute, quand on dit, là... Puis là, on est dans l'actualité, là, mais quand on dit que Poutine est devenu complètement fou, puis... en fait, c'est d'enlever sa part de responsabilité.
Effectivement.
Je trouve que c'est... Quand les gens disaient qu'Hitler, c'est un monstre, non, c'est pas un monstre, c'est un humain. Il faut pas le déshumaniser, parce que ça fait partie de l'humanité, ça. On porte tout ça dans nous. C'est juste qu'il y en a qui le gèrent moins bien que d'autres. Thank you. C'est ça, tu vois, moi, je vois les raisons historiques, comme toi, que je comprends. Je vois la faiblesse des Européens quand ils ont réagi par rapport à la Géorgie, à un moment donné. Puis, par la suite, avec la Crimée. Puis je vois le genre de personnage que Poutine était. Je vois aussi qu'est-ce qui s'est passé en Syrie. Je vois que c'est un joueur de poker. Non, joueur d'échecs, excuse-moi. Ça, c'est Trump, le joueur de poker. Puis je vois qui est en face de lui, Biden, qui dit qu'il n'ira jamais se battre. Donc, il y a quelque chose là. Il est très. Je pense que Poutine est très pragmatique. J'ai totalement révolté de la façon qu'il agit. Parce qu'il est en train de. Il va peut-être. J'espère que ça ne ressemblera pas à Grozny, en Tchétchénie. Mais il est en train vraiment de. Comment je pourrais dire? Donc, il va. Peut-être qu'il finira pas suicidé dans un bunker. Mais je pense qu'il y a une autodestruction là, qui est amorcée, en fait. C'est le début de la fin, tant qu'à moi. Parce qu'il ne peut pas. Son peuple va. Parce que pas juste les Ukrainiens paient le gros prix, mais son peuple va payer un prix assez cher aussi pour cette prise de décision-là. Fait que j'essaie de. Tu sais, les raisons historiques, je les comprends. Puis je comprends aussi que les États-Unis n'ont pas respecté leur parole de limiter l'OTAN. Mais en même temps, c'est pas une raison, comme qu'ils disent dans La guerre des Tuques. Je sais pas si tu connais ce film-là.
Connais le film, mais jamais vu, non.
Il y a une célèbre phrase dans le film qui dit « La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. » Mais je trouve que ça dit tout, dans le sens que il y a toujours moyen de s'asseoir puis de négocier, mais avec des personnes de bonne foi. Puis je pense qu'en ce moment, la Russie est plus là. Puis je pense qu'à un moment donné, les États-Unis étaient pas là non plus. Il y a toute une génération de Palestiniens qui est complètement perdue. Puis tu parlais tantôt de les deux côtés de la médaille, tu sais, dans une guerre. Tu connais l'expression, la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est à ça qu'on assiste présentement. Puis là, je donne pas de crédit du tout à Poutine, c'est pas ça l'affaire. C'est juste que, en tout cas, moi, j'ai déjà aussi une blonde, une Russe. Je suis tout à fait en mesure de distinguer un autocrate du peuple russe, en fait. Parce que les Russes sont... en fait, ils sont très proches des Québécois. Je ne sais pas si il y a un côté nordique un peu, là, au niveau de la fête, du bon vivant. Ils ont un côté très chaleureux, les Russes, qu'on connaît peu, malheureusement.
Effectivement. Ben, écoutez, on va décompresser un petit peu. Là, c'est tendu.
Non, c'est pas tendu.
C'est façon de parler. Le monde est trop dur pour le moment et il continue à être dur. On était, il y a à peine 2-3 semaines, on était dans les troisièmes doses, les masques, machin.
Les camionneurs.
Il faut pas oublier les fameux camionneurs. Ouais. Et là, tout d'un coup, on passe de ça à la guerre, aux bombes, à Satan 2, à machin. Oh.
Mais il faut que je te dise quelque chose. Puis ce serait bien que. En tout cas, je suis pas un modèle, je suis loin d'être parfait, c'est pas ça. Mais moi, je suis un souverainiste québécois convaincu. D'accord. Parce que je suis content, je suis relativement fier. Oui, je suis très fier de ma culture. Je suis très fier qu'on ait réussi à s'implanter en Amérique du Nord, puis qu'on n'ait pas le même rapport vis-à-vis des peuples autochtones que le rouleau compresseur anglophone anglo-saxon. Ceci étant dit, mon souverainisme ne se bâtit là-dessus et ne se bâtit pas contre quelque chose. Ça ne se bâtit pas contre les Ontariens. Au contraire, je les trouve super aimables, tout ça. Je ne bâtis pas non plus mon identité contre le Canada. Le Canada, c'est un voisin extraordinaire. T'sais. C'est juste que il y a quelque chose là, quelque part, où on est un peuple qu'on est sur le territoire d'un autre peuple qui, lui, est majoritaire, puis nos décisions à l'international ne sont pas toujours celles qu'on voudrait. Puis sur notre sol aussi. Juste le rapport à l'immigration, des fois, c'est différent. C'est ralenti au Québec. On ne sait pas pourquoi le fédéral ralentit au Québec l'immigration francophone d'Afrique. Tu comprends? Il y a toutes des choses comme ça. On ne tire pas toutes les ficelles. Mais ce souverainisme-là, comme je te dis, est aucunement dans la haine. Au contraire, il est dans l'inclusion. Si on pouvait faire l'indépendance du Québec avec les peuples du Québec, c'est-à-dire les peuples autochtones, ce serait tellement génial. En fait. Il y a eu un essai récemment qui est sorti, là, ça s'appelle « Ce qui nous lie » aux éditions Éco-Société. Là, puis c'est justement là, c'est une alliance enfin, entre les souverainistes québécois et les peuples autochtones.
Ben, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est juste que aussi intelligent, je dis toujours qu'on est à, on est à l'âge d'or de l'humanité, mais aussi intelligent ou aussi équipé que nous sommes, on est autant con parce qu'on devrait être super intelligent, apprendre de nos erreurs du passé et puis gagner quelque chose de meilleur, mais on dirait que je sais pas, c'est. Bon, enfin bref.
Il y a de la place pour tout le monde, tu sais. C'est peut-être bon. Mais écoute, on va y aller, relax, là.
On va
y
aller. On va se détendre.
Oui, vas-y. Vas-y, je t'écoute.
Alors, Christian, dites-nous, quel est votre film préféré de tous les temps et pourquoi? Je sais que vous en avez beaucoup, tout le monde en a beaucoup, mais si je mettais $1 million sur la table et je dis, Christian, choisissez un film préféré de tous les temps.
Là, c'est pas léger non plus comme film, mais bref, c'est le film Le Corbeau.
Le Corbeau, d'accord.
Réalisé par Henri-Georges Clouzot.
D'accord.
En 1943.
Je connais ce film, j'ai déjà entendu parler, j'ai vu des extraits. Mais
Ah oui?
Le Corbeau, ouais.
Est-ce que tu veux savoir le sujet?
Oui, vas-y.
Oui. OK, donc le sujet, en fait, c'est ça se passe dans une petite ville. Puis 1943, faut pas oublier, la France est occupée par les Allemands. À l'époque, les gens vont toujours... La majorité des gens, puis c'est pas pour être méchant, c'est pour survivre, la majorité des gens prennent la direction de où le vent souffle. Donc, il y avait beaucoup de délations en France. Il y avait beaucoup de lettres anonymes qui étaient envoyées aux Allemands, à la milice, tout ça, pour, bon, un tel, mon voisin, je pense qu'il y a un juif chez lui, ou des choses comme ça. C'est terrible, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Puis, des fois, c'était juste pour se débarrasser. Une chicane de clôture, bon, je me débarrasse de mon voisin comme ça, j'envoie une lettre anonyme comme quoi qu'il héberge les Juifs ou il aide les résistants ou ce genre. Donc, ça a été quand même un grand traumatisme à l'époque. Puis là, Henri-Georges Clouzot, lui, il a réalisé un film, c'est une histoire, c'est un médecin qui fait des accouchements, mais il fait des avortements. Quand il y a des problèmes qui se présentent, une femme est enceinte et sur le point d'accoucher, lui, il choisit la mère au lieu de l'enfant. Donc, il n'y a aucun souci avec ça pour lui. Tu découvres avec l'histoire qu'il y a une historique qui vient avec ça. Mais il commence à avoir des lettres anonymes dans cette petite ville-là qui dénoncent. Mais il dénonce tout le monde, mais le lien, dans toutes les lettres, le médecin est présent.
D'accord.
Puis là, ils savent que c'est quelqu'un qui est dans la ville, quelqu'un qui connaît tout le monde, parce que c'est des vérités, en fait. Il envoie une lettre au directeur de l'hôpital pour dire que son employé couche avec sa fille, des choses comme ça. Bref, c'est vraiment... Ça fout la merde. Il y a même un suicide, à un moment donné.
D'accord.
Ça devient très dramatique. Mais finalement, on découvre que, bon, c'est quelqu'un de la ville, puis c'est vraiment pas la personne qu'on s'attend. C'est un bon suspense, mais en même temps, c'est une bonne critique sociale de l'époque, bien ancrée dans la sociologie de l'époque puis le contexte historique. Aujourd'hui, je trouve qu'un film comme ça, le propos, la délation anonyme, puis le lynchage aussi, c'est tellement à propos avec les médias sociaux en ce moment. Moi, j'aimerais beaucoup faire un remake de ce film-là, mais avec les médias sociaux aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui, les gens se lâchent, ils sont au bout du monde, et puis ils tombent sur un truc, et puis ils peuvent raconter des choses, ils peuvent inventer des choses sur les gens, et puis... les rumeurs peuvent commencer à partir d'un petit truc et puis gâcher des vies bêtement, quoi.
Exactement. Puis les gens se sentent de plus en plus à l'aise. Moi, j'ai vu des commentaires sur Twitter, est épouvantable pour ça. Des gens qui disent tu devrais te suicider, des choses. Comme il y en a une en Europe, là, une jeune fille, là, je pense que c'est Mila en France, une adolescente qui s'est déclarée, bon, elle était lesbienne, puis tout ça. Puis. Alors, s'est faite, je sais pas trop, s'est faite, comment je peux dire, intimidée. par des gens qui disaient en tout cas, qu'elle n'était pas de vie, tout ça. Puis, en tout cas, elle a réagi en ado, elle a fait des commentaires immatures, islamophobes, et tout, mais là, elle s'est fait rentrer dedans des menaces de mort. C'est épouvantable. Fait que ça rejoint un peu cet esprit-là en ce moment. Puis, j'ai l'impression que les médias sociaux tendent à nous polariser tout le monde sur des opinions. Mm-hmm. Puis, on tourne les coins ronds alors que c'est la discussion. Pour moi, je suis une personne de. Comment je pourrais dire? Je suis né au début des années 70. Mm-hmm. Puis, pour moi, c'est les Nations Unies, c'est le dialogue. C'est, je veux dire, il y a quelque chose là qui est plus présent, on se parle plus, les gens se parlent plus, ils sont dans leurs médias sociaux, sur Internet, puis ils ont leur triangulation qui fait en sorte qu'ils se parlent juste entre eux. Mm-hmm. Puis je trouve ça dommage parce que on peut pas s'enrichir, on peut juste s'enfoncer. Je veux dire, un néo-nazi va s'enfoncer dans le néo-nazisme sur Internet, mm-hmm, parce qu'il va fréquenter que des néo-nazis. Tu sais, je veux dire, t'as toutes sortes de mouvements comme ça, je veux dire, on va prendre quelque chose de plus léger. Les gens de Star Wars vont se mettre à détester Star Trek. Tu comprends? C'est vraiment... on est dans des communautés. Puis le communautarisme, dans le plus mauvais sens du mot, existe en ce moment. Puis je trouve que ça nous détruit. En fait, ça fait descendre le niveau beaucoup. Quand j'étais jeune, Radio-Canada, il y avait tout le temps des invités avec des opinions contraires. Mm-hmm. Puis tu pouvais te faire un point de vue sur un sujet en écoutant les deux. Puis en fait, quand tu dis on a raison, on n'a pas raison, je pense que deux personnes qui argumentent, les vérités sont multiples. Il n'y a pas une vérité, elles sont multiples. Mm-hmm. Puis je pense que quand deux personnes discutent, débattent, ça participe à la démocratie, ça participe au fait qu'on ne se tape pas dessus. Parce qu'on se parle, mais ça peut être très violent verbalement. Mm-hmm. On n'est pas dans la violence physique, on n'est pas dans... Il y a un certain combat d'idées, mais on n'atteint pas dans leur intégrité les personnes, tu comprends? Puis moi, c'est ça, pour moi, la vraie démocratie, c'est ça. Puis aujourd'hui, on dirait qu'on a oublié... Autant... moi, écoute, je déteste les woke, comme je déteste les néo-nazis, tu sais. Je veux dire, c'est deux extrêmes, pour moi, qui c'est... Comment je peux dire? C'est impossible. On sera jamais assez radical pour eux, en fait. C'est pour un néo-nazi, moi je vais être un gars d'extrême gauche, puis pour un woke, je vais être un gars d'extrême droite. Je veux dire, à un moment donné, le monde n'est pas noir et blanc, puis la majorité des gens appartiennent pas à cette radicalité-là. Une chance, sauf qu'on... Comment je peux dire? Il y a une tendance vers ça en ce moment.
Quelle est votre chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
Ouf! En fait, c'est la chanson s'appelle Fagning, qui a été composée. C'est un groupe qui s'appelle Windir, qui est un groupe de black metal norvégien.
D'accord.
Qui vient d'une région, je pense que c'est Sogmental, je pense que ça s'appelle, c'est des régions du fjord. C'est des jeunes qui habitaient sur des fermes là, près des fjords norvégiens, dans la montagne. Puis c'est une langue ancienne, norvégienne. C'est un peu le black metal, en fait, c'est un peu une recherche de l'essence, pas folklorique, je devrais dire, mais des origines. Il y a une recherche des origines beaucoup. Ça a commencé beaucoup en Europe du Nord, dans les pays scandinaves. On parle de la culture viking un peu, tout ça. Ce groupe-là ont réussi à faire quelque chose vraiment de ramener des événements historiques. Fagning, j'ai aucune idée, mais je sais que ça participe à un tout historique. J'ai des paroles, faut pas me demander qu'est-ce que ça dit. Sauf qu'il y a une énergie là-dedans, il y a des harmonies, il y a une douceur, mais en même temps, la douceur côtoie un peu une certaine violence.
D'accord.
Je trouve qu'il y a beaucoup de... Moi, ça me fait beaucoup voyager, ce genre de musique-là. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est difficile à la première écoute. Mais quand on écoute attentivement les harmonies qui sont... puis les voix aussi, les voix qui sont différentes. Moi, ça me fait penser un peu à un opéra, là, en fait, là, parce qu'il y a des voix différentes qui se parlent dans la même chanson. We'll be right back. Au Québec, présentement, il y a un groupe qui, ben, je dirais pas c'est un équivalent parce qu'ils ont une identité qui est vraiment propre, qui s'appelle aussi Forteresse. C'est un groupe, justement, eux ils sont fait accuser par des antifas d'être des gens d'extrême droite, alors que pas du tout. Ils parlent de l'histoire du Québec, d'un Québec romantique du 19e siècle. Ils parlent de beaucoup de littérature. Puis ils sont fait pointer du doigt à cause d'une chanson en particulier qui est Déluge blanc. Pour les antifas, c'était comme White Supremacy.
D'accord.
Puis Déluge blanc, c'est un poème qui parle d'une tempête de neige qui a été composée au 19e siècle.
Rien à voir, quoi.
le poète, c'est Lozo, son nom, en fait. Donc, rien à voir, absolument.
On va passer à l'entretien super-héros.
Oh.
Alors, quel est votre super-héros préféré?
Daredevil.
Oh, Daredevil. D'accord. Et pourquoi?
Parce qu'il était aveugle. Son père était boxeur. Son D'accord. père, c'était un loser qui était assassiné. Puis c'est je sais pas, c'est le fait que le héros, c'est un super-héros, c'est un handicapé. Moi, ça m'a beaucoup séduit, ça.
Et la série sur Netflix, elle est très bien.
Je ne l'ai pas regardée, en fait. J'avais peur de briser quelque chose.
Non, mais en tout cas, la série télé est mieux que le film.
OK, ben, tant mieux, parce que le film était assez...
Oui. Le film c'était du n'importe quoi. Mais la série est tellement bonne et l'acteur est tellement bon que dans le dernier Spider-Man, le tout dernier qui est au cinéma actuellement, ils ont repris... On le voit, il est l'avocat de Peter Parker.
Ah, ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans les super-héros, ces crossovers-là.
Ouais, c'est ça. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est que quand ils prennent un gars d'une série, ils font une série télé, et il y a un acteur qui joue le rôle, et puis après, quand ils font le film, ils prennent un autre acteur. Et l'acteur, il est tellement bon, c'est tellement bien fait, c'est un bijou, en tout cas au niveau de Daredevil, par rapport au film que j'avais trouvé super nul. Quand on l'a repris, j'ai dit voilà quoi. Donc s'ils ont voulu le garder pour le cinéma, c'est qu'il a vraiment fait du bon boulot. Et peut-être que justement le prochain Spider-Man, il sera dedans quoi. On le voit pendant quelques minutes dans le dernier Spider-Man, mais juste pour nous faire un petit clin d'œil pour dire que il est là quoi.
Ah, ben ça fait plaisir, ça. Je vais aller voir ça.
Ah. Et dites-nous, si vous étiez un super-héros, quel est le pouvoir que vous auriez voulu avoir?
Oh mon Dieu, le pouvoir! Ah mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Le pouvoir de lire dans la tête des gens.
Ah ouais, mais ça je crois que ça, c'est... C'est bien, mais en même temps, c'est tellement... Je trouve ça tellement... comment dire? Je crois que c'est... Ça va devenir fou, quoi. Si on pouvait savoir tout ce que les gens pensaient...
Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prévenir en amont. Effectivement. Je pense... Ça me fait penser à un film de Mel Gibson. C'est pas un film de super-héros, mais il y avait Mel Gibson dedans. Je me souviens plus du
titre. Il pouvait entendre la voix, ce que les femmes pensaient, c'est ça?
Oui, exactement. Oui. Je trouvais que c'était intéressant comme concept parce que en faisant ça, il s'est servi de ça pour réajuster son positionnement, être plus respectueux, puis faire sentir les gens bien. Donc il y a quelque chose là qui me séduit beaucoup, moi. Puis c'est pas un pouvoir destructeur, au contraire, c'est un pouvoir qui permet de comprendre davantage les gens. Moi, je trouve ça intéressant, ça. C'est peut-être un peu décevant. Là, peut-être.
Non, pas du tout.
J'aimerais ça lancer un autobus, justement, au bout de mes bras.
C'est très bien. Et qu'est-ce que, à votre avis, fait un bon super-héros?
Son humanité. Je pense qu'un super-héros qui est trop lisse, qui est trop parfait, ça le rend moins intéressant. Puis là, je viens de retrouver la série dont je te parlais, qui était extraordinaire, qui s'appelle Watchmen.
Ah, Watchmen, bah ouais. Bah,
oui, Alan
oui,
Moore.
Oui, 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 le Watchmen.
Donc, lui, il a poussé vraiment le côté humain, le côté des défauts des personnages, des super-héros, mm-hmm. jusqu'au bout.
Mm-hmm. Effectivement, ouais. C'est vrai que c'était intéressant, ça, Watchmen, ouais. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et dites-nous, êtes-vous plutôt DC ou plutôt Marvel? Peut-être rien du tout, mais est-ce que vous êtes plus DC ou plutôt Marvel?
Moi, j'aime à dire que je suis aux deux.
D'accord.
En fait, comme je disais tantôt, il y a des choses que j'aime moins d'un côté comme de l'autre. Il y a des choses que j'aime beaucoup d'un côté comme de l'autre. Donc, je ne voudrais pas exclure. J'ai plus été Marvel quand j'étais jeune, dans mm-hmm. ma courte période de super-héros. Mm-hmm. J'aurais tendance à ne pas fermer rien. En fait, Batman a tellement été bien exploité de tous les côtés. Le côté sombre vraiment de Batman a été vraiment bien mm-hmm. fait. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui se l'approprient mm-hmm. De superbe façon. Moi, j'aime... Non, je peux pas répondre à cette question-là. Désolé.
D'accord. Et dans les bandes dessinées que vous avez vues, que vous avez connues, que vous avez peut-être vous-même créées, peu importe, qui est votre méchant préféré, s'il y en a un?
Mon méchant préféré, je pense que c'est drôle, c'est dans l'actualité un peu, c'est Rasputin. Rasputin, dans la série Corto Maltese, c'est un méchant qu'on peut même trouver sympathique d'une certaine façon. Mm-hmm. Parce que c'est un ami du personnage principal, mais c'est un méchant en même temps. Ouais, c'est quelqu'un, on ne sait jamais de quel côté il va tomber. Puis c'est pas le Rasputin historique qui était proche du dernier tsar de Nicolas II, et surtout mm-hmm. de sa femme. Physiquement, c'est lui, là. C'est carrément lui. Puis Hugo Pratt a créé vraiment un personnage intéressant. Je pense que le succès de Corto Maltese réside pas juste dans le personnage de Corto Maltese, mais réside aussi dans le personnage de Rasputin.
Quels sont vos projets futurs?
Ah mon Dieu, ça va prendre une heure à en parler.
Quelques <Okay. ans.
rire> En fait, là, présentement, je suis en train de peaufiner des planches, un album d'à peu près 200 planches.
D'accord.
Ça fait quand même longtemps que je travaille dessus. C'est un projet qui va s'appeler La Cité Oblique, qui est une bande dessinée un peu hybride entre le livre... d'art et la bande dessinée. Mm-hmm. C'est inspiré d'un texte que Howard Phillips Lovecraft, je ne sais pas si tu connais Lovecraft, c'est un auteur américain. C'est un auteur de... C'est un peu le père, si on veut, de la... En tout cas, la culture geek s'inspire beaucoup de Lovecraft. On voit beaucoup de choses que Lovecraft a créées à la télévision, tout ça, dans des séries comme Doctor Who, des choses comme ça. Mm-hmm. Lui, c'est un peu la continuité de Edgar Allan Poe, tout ça. Fait que Lovecraft, je pense qu'il est mort en 36-37 dans ce coin-là. Okay. Puis Lovecraft est venu à Québec en voyage en 1930. Puis en revenant de voyage, il est venu à trois reprises, dont en 1930. Puis en revenant de voyage, il s'est écrit pour lui-même une histoire de la Nouvelle-France, du Québec. Mm-hmm. Moi, j'ai décidé de prendre l'univers fantastique de Lovecraft, puis mm-hmm. de l'intégrer dans l'histoire de la Nouvelle-France, puis du Québec. Ce qui crée une autre vision, un autre côté historique de l'histoire. Comme je te disais en début d'entrevue, je distorsionne l'histoire, je joue avec maintenant. Donc là, j'incorpore tout. C'est comme tout son univers fantastique d'horreur est incorporé. Je sais pour moi, la chute de Québec, mettons, c'est pas juste des soldats qui se battent, là, c'est quelque chose d'autre. Là, c'est des créatures. C'est un univers fantastique, en fait, qui est très onirique en même temps. Ça, c'est un gros projet qui va sortir aux éditions Alto vers la fin de l'été. Je travaille aussi avec Yao. C'est un spectacle que Yao, on est en train de finir, là, un spectacle que Yao va faire prochainement. Je travaille aussi, j'ai un projet, je suis en train de faire un doctorat en bande dessinée. Le doctorat, c'est de créer une bande dessinée qui n'est pas destinée à être publiée dans un livre, mais il y a plusieurs défis, comme je disais tantôt, la BD est beaucoup associée au livre, mais c'est de créer une bande dessinée dont le déploiement narratif doit être fait dans l'espace d'une galerie. Donc je travaille là-dessus. J'ai aussi un projet sur un musicien que j'ai, euh, qu'on a mis ce projet-là vraiment sur mon itinéraire. J'avais pas prévu faire ça, mais c'est sur Dédé Fortin. André Fortin, qui était le chanteur, le compositeur, l'âme, en fait, des Colocs. Des années 90, parce que mon attaché de presse, ça se trouve à être l'ancien attaché de presse d'André. Donc, elle m'a dit « Ah, tu devrais travailler là-dessus », puis tout ça. Bon, j'ai décidé de travailler là-dessus, puis ça devrait sortir l'année prochaine. Mais j'en ai plein d'autres projets. Ouais.
D'accord, bah, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur?
Oh, du gaz. Parce que pour tout faire ces projets-là, ça va me prendre vraiment beaucoup d'énergie, parce que en fait, là, je viens d'avoir 50 ans, puis ça fait 30 ans que j'en fais, puis ça fait plusieurs années que je roule, là, vraiment deux, trois fois plus que je devrais, mais j'aime mon métier, mais en même temps, il faut que je réapprenne un peu à avoir une vie, avoir des loisirs, avoir des choses comme ça. C'est juste d'avoir plus d'énergie pour faire mes projets, que j'adore, mais aussi avoir d'énergie aussi pour faire autre chose, pour me vider la tête. Parce que quand on est dans la création, ben tu le sais, là, quand on est dans la création, ça nous habite complètement. C'est difficile après ça d'arriver puis de payer ses factures, puis de tomber dans le réel. Mais le réel est bien concret, puis dans le réel, il y a du monde qu'on aime. Puis la vie, elle passe trop vite, en fait. J'ai perdu un ami, moi, au mois d'août passé, 62 ans, au sommet de son art, Henriette Valium. Il était en train de faire une série incroyable qui était pour être exposée en Serbie. Il a fini une œuvre, puis il est allé se coucher, il s'est jamais réveillé.
Wow.
Puis ce soir-là, sa blonde était avec moi. Puis on était. C'était le lancement de Mégantic, justement, à Montréal. Puis il devait venir, on l'attendait. Elle a dit: je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mon chum. Puis le lendemain, elle l'a trouvé. T'sais. Fait que.
Wow.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un message. C'est un message comme quoi. Il faut en profiter, en fait. Profiter, je parle pas d'aller se piquer à l'héroïne dans un coin, c'est pas ça. C'est de profiter des gens qui nous entourent, qu'on aime, profiter d'une bonne bouffe, profiter de ce qu'on aime, de ceux qu'on aime surtout.
Christian, merci.
Merci à toi, David, c'est un réel plaisir.
Apparemment. Au revoir.
Au revoir.
Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Christian pour ce bon moment de partage. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast, parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela, vous le savez, permettra de donner plus de visibilité au podcast dont je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao!